Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 11 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, mort de Luc Nkulula, cofondateur de la Lucha, dans l'incendie de sa maison à Goma.
Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin.
Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont à Singapour pour leur sommet très attendu de mardi matin.
La Maison-Blanche tire à boulet rouge sur le premier ministre canadien Justin Trudeau, accusé d'avoir poignardé dans le dos M. Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha, a annoncé hier la mort de Luc Nkulula, un de ses fondateurs. Il est décédé dans l'incendie qualifié de suspect de sa maison dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est du pays. Des détails avec Jacques Aristide.
Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte lâche sur la personne de notre camarade, même si jusque-là nous ignorons l'origine du feu. C'est ce qu'a déclaré Ghislain Mouyiwa, l'un des responsables de ce mouvement des jeunes indignés basé à Goma, dans le Nord Kivu. Lucha est farouchement opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui expirait le 20 décembre 2016. Mi-août 2016, Luc Nkulula était le porte-parole du mouvement lors d'une audience à Goma avec le président Kabila. La fin du mandat officiel de Joseph Kabila a été marquée par des violences qui ont causé la mort de plus d'une cinquantaine de personnes lors des manifestations organisées par l'opposition et des mouvements citoyens dont Lucha. La présidentielle qui doit désigner un successeur au président Kabila est prévue le 23 décembre 2018. La Constitution interdit à M. Kabila de se représenter. Ses détracteurs l'accusent de chercher à rester au pouvoir.
Nous reviendrons sur la mort de Nkulula dans la seconde partie de cette édition.
Toujours en RDC, le directeur général de l'OMS a déclaré hier pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a causé la mort de 27 personnes dans le Nord-Ouest et ce 21 jours après une vaccination ciblée. C'est ce qu'a déclaré à la presse à l'aéroport de Kinshasa le docteur Tedros Adhanom qui effectue une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur où l'épidémie a été déclarée le 8 mai par les autorités.
Au Cameroun, un soldat a été tué samedi dans une agression dans la région anglophone du Nord-Ouest. Jean-Roger Bion.
L'adjudant a été attaqué près de Furuawa, dans le département de Menchoum, alors qu'il était en patrouille avec un autre militaire qui n'a pas été blessé. Il s'agit d'un guet-apens, selon les sources régionales, qui n'ont pas précisé les motivations des agresseurs. Combats entre armées et groupes séparatistes, enlèvements et attaques diverses sont devenus presque quotidiens dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest frontalières du Nigeria. Selon le groupe de réflexion International Crisis Group, au moins 120 civils et 43 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués depuis fin 2016, début de la crise dans ces régions qui s'est intensifiée fin 2017. Quelque 160 000 personnes ont dû fuir leur domicile à la suite de ces violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria voisin selon l'Agence nigériane de gestion des urgences.
Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin, malgré un geste du gouvernement qui a limogé un gouverneur du sud du pays, accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Le personnel judiciaire réclame désormais le limogeage des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences. L'Ordre des avocats du Tchad veut également organiser une marche le 16 juin à N'Djamena, la capitale, et boycotter une session d'assises prévue du 11 au 20 juin. La grève des avocats a débuté le 31 mai. Ils avaient ainsi rejoint celle des magistrats entamée 3 jours plus tôt. Le 22 mai, un avocat de Doba, Maître Doumra Manassé, s'était dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait 3 clients relaxés. Ces derniers avaient ensuite été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Doba, d'après lui. après l'envoi d'une mission d'enquête du ministère de la Justice à Douba qui avait recommandé le départ du gouverneur et du commandant de gendarmerie de la région de Logone oriental. Le gouverneur Adam Nouki Charfadine avait été démis de ses fonctions le 6 juin par le président Idriss Déby.
Au Sénégal, le ministre du Tourisme vient de quitter le gouvernement pour, dit-on, convenance personnelle, d'après une information rendue publique par la radio Futur Média et qui n'a pas fait l'objet de démenti. Cité dans un scandale financier, Mam Bay Niang aurait déjà transmis sa lettre de démission au Premier ministre sénégalais. Reste à savoir si le président de la République acceptera de lâcher l'un de ses plus fidèles collaborateurs. De Dakar, correspondance de Seydina Abagay.
Le ministre du Tourisme est rattrapé par sa gestion lorsqu'il était au ministère de la Jeunesse. Mam Bay Niang est cité dans un scandale financier au programme des domaines agricoles communautaires qui était sous sa tutelle. En effet, l'inspection générale des finances a recommandé l'ouverture d'une information judiciaire pour détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Les vérificateurs financiers ont en plus recommandé que l'actuel coordonnateur du programme des domaines agricoles communautaires et son prédécesseur soient traduits devant la Cour des comptes. Dans un premier temps, le ministre du Tourisme Mam Bay Niang avait déposé une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles contre les deux sites d'information qu'il avait cités dans l'affaire. Cette démission inattendue intervient moins d'un an après son arrivée au ministère du Tourisme. Auparavant, Mam Bay Niang a été ministre de la Jeunesse de 2014 à septembre 2017. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé hier à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, au Maroc. Le gazoduc doit relier les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Il consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana.
En Égypte, le procureur public a annoncé dans un communiqué hier avoir renvoyé devant un tribunal spécial 28 personnes accusées d'avoir formé un groupe en vue de renverser le régime. Ces dernières semaines ont été marquées par une vague d'arrestations d'opposants et de membres de la société civile. Selon des experts, les autorités craindraient de possibles mouvements sociaux suite à l'explosion des prix depuis la dévaluation de la monnaie locale en novembre 2016 dans le cadre d'un plan de réforme imposé par le FMI en vue de l'obtention d'un prêt de 12 milliards de dollars.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont à Singapour pour un sommet très attendu mardi matin, le premier dans l'histoire entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. Nous retrouvons Jacques Aristide.
L'arsenal nucléaire nord-coréen, qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans, sera au cœur des pourparlers après des décennies de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. À Singapour, invité à dire comment il envisage son tête-à-tête inédit de mardi, le président Trump a répondu « très bien ». Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. Possible un résultat concret évoqué par Washington, un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée, techniquement Nord et Sud, sont toujours en guerre. Avant de quitter le sommet du G7 au Canada samedi, M. Trump a affiché son optimisme sur cette rencontre, dont il espère faire un marqueur de sa présidence. De son côté, peu après son arrivée à Singapour, Kim Jong-un a rencontré le premier ministre du pays, Lee Hsien Loong, qui a salué la décision courageuse et admirable d'organiser ce sommet.
La Maison-Blanche a attaqué le premier ministre canadien Justin Trudeau, l'accusant d'avoir poignardé dans le dos le président américain Donald Trump après que ce dernier a quitté le sommet du G7 au Québec avant la fin de la rencontre pour se rendre à Singapour. Le conseiller présidentiel pour le commerce, Peter Navarro, a dit à Fox News qu'il y a une place réservée en enfer à tout dirigeant qui s'engage dans une diplomatie de mauvaise foi avec Donald Trump et tente de le poignarder dans le dos quand il s'en va.
Monsieur Trudeau, dans une conférence de presse après le départ de Monsieur Trump, avait qualifié d'insultant les nouveaux droits de douane imposés par le président américain aux importations d'acier et d'aluminium. Donald Trump avait lui-même, dans un tweet, qualifié le premier ministre canadien de personne malhonnête et faible. Quant à la chef de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, elle a souligné que le Canada ne trouve pas que des attaques ad hominem soient un moyen particulièrement utile ou approprié pour ses relations avec les autres pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Nigeria, le programme d'amnistie fiscale a permis au gouvernement de récupérer plus de 83 millions de dollars. Le non-recouvrement des impôts impayés représentait un véritable manque à gagner pour l'économie du pays. Ce programme offre une amnistie aux contribuables, particuliers comme entreprises en situation d'irrégularité avec le fisc nigérien et qui se conforment aux exigences. Le programme est prévu pour prendre fin le 30 juin prochain. La compagnie nationale tanzanienne Air Tanzania veut créer ses propres unités d'assistance en escale et restructurer son plan de croissance. Air Tanzania prendra possession d'un Boeing Dreamliner d'ici quelques mois et de deux CS-300 d'ici l'année prochaine. Ces acquisitions permettront son expansion régionale et internationale à Bujumbura au Burundi, Entebbe et Kampala en Ouganda, Lusaka en Zambie et Harare au Zimbabwe. La compagnie prévoit aussi un déploiement vers Mumbai en Inde et Guangzhou en Chine. L'Ouganda engage des travaux de construction de son second aéroport international dans le district de Hoima, dans l'ouest du pays. La livraison est prévue d'ici 2021. Kampala veut désenclaver cette région qui regorge d'un fort potentiel pétrolifère. Le coût des travaux est estimé à 309 millions de dollars. Cet aéroport sera doté d'une piste de 3,5 km et s'étend sur une superficie de 29 km carrés.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le tournoi de la COSAFA et le Zimbabwe est sorti vainqueur.
Oui, le Zimbabwe s'est offert son 6e titre en 18 éditions. Les Warriors ont battu en finale la Zambie sur la marque de 4-2 à Polokwane en Afrique du Sud pour conserver le trophée acquis l'année dernière. En match de classement, le Lesotho vainqueur 1-0 de Madagascar termine à la 3e place.
La Coupe du Monde, c'est dans 3 jours et les équipes sont dans la dernière ligne droite de leur préparation.
C'est une occasion pour les différentes formations qualifiées pour ce mondial de se tester. Occasion aussi pour elles de se rassurer. Une occasion d'ailleurs manquée par la Tunisie, battue 1-0 par l'Espagne. Belle performance par contre pour le Maroc, vainqueur 3-1 de l'Estonie. Les Lions de l'Atlas ont donc fini leur préparation, tout comme le Brésil qui a battu hier l'Autriche 3-0. Neymar une fois encore buteur. Et puis le Sénégal pour son dernier match de préparation va affronter ce soir la Corée du Sud. Le match se jouera en Autriche.
Toujours football et au Ghana, la FIFA a suspendu le président de la fédération.
Effectivement Idrissa, Kwesi Nyantakyi, soupçonné de corruption, a été suspendu à titre provisoire par la FIFA. D'ailleurs, la veille, le gouvernement du Ghana avait annoncé qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football après les révélations d'une enquête de journalistes d'investigation sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Nyantakyi, vice-président de la CAF, également membre du conseil de la FIFA, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA.
Le Ghana, justement, doit accueillir la prochaine CAN féminine.
Ce sera en fin de cette année et déjà 7 pays sont qualifiés. Outre le pays hôte, le Ghana, l'Algérie sera aussi présente après avoir éliminé l'Éthiopie, tout comme l'Afrique du Sud et la Zambie, qui ont écarté respectivement le Lesotho et le Zimbabwe. En revanche, la Côte d'Ivoire cale à Bamako. Les filles de Clémentine Touré, tenues en échec 2-2 à domicile à l'aller, n'ont pas réussi à faire la différence au retour. Score final 0-0. Les Maliennes profitent du but marqué à l'extérieur pour valider leur billet pour cette CAN.
Déjà la veille, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont obtenu leur qualification.
Oui, et après le 5-0 infligé à l'extérieur à l'aller au Congo, les Lions indomptables ont remis le même tarif cette fois à domicile. De son côté, la Guinée équatoriale a renversé le Kenya en s'imposant 2-0 à la maison après sa défaite de 1 à l'aller. Le dernier ticket qualificatif pour cette CAN féminine 2018 se joue ce soir à Lagos. Le Nigeria va affronter la Gambie qu'elle a déjà battue 1-0 à l'aller.
Tennis pour finir, Rafael Nadal a remporté hier le tournoi de Roland-Garros.
Oui, pour la 11e fois de sa carrière, le numéro 1 mondial s'est imposé en finale face à Dominique Thiem en 3-7, 6-4, 6-3, 6-2. À 32 ans, il reste plus que jamais le maître absolu de la terre battue et se rapproche du record de victoires en grand chelem de Roger Federer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la mort de l'activiste congolais Luc Kulula, l'un des membres fondateurs du mouvement citoyen pro-démocratie Lucha, tué dans l'incendie de sa maison dans le quartier Imbi à Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La cause de l'incendie reste inconnue, mais ses compagnons de lutte privilégient la piste criminelle et exigent des autorités une enquête rapide, transparente et crédible avec l'assistance internationale pour déterminer les circonstances de la mort de Luc Kulula. De Goma, notre correspondant Charlie Kasereka.
L'incendie à la résidence de Luc Kulula est survenu au milieu de la nuit du samedi à dimanche alors qu'il était au lit. Au moment où la flamme s'est intensifiée, Luc n'a pas réussi à arracher les antivols de la fenêtre pour se sauver. Les voisins ont tenté sans réussir à éteindre les feux avant l'arrivée des pompiers qui sont arrivés avec un grand retard. Jusqu'à présent, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, selon plusieurs témoignages des voisins rencontrés par la VOA Afrique au lieu du drame. Mais ses camarades de la Lucha privilégient plutôt la piste criminelle. Jivin Kombi est communicateur de la Lucha.
Nous sommes vraiment concernés, sidérés par cet événement parce que nous ne comprenons pas comment il y aurait un incendie chez lui alors qu'il n'y avait pas de flammable, il n'y avait pas non plus du courant électrique. Nous exigeons qu'il y ait une enquête. Luc, c'est un militant prêt à se battre debout au front. C'est pas de cette manière qu'il mourrait.
Au lieu d'idée, c'est la consternation et effondrement pour tous les militants du mouvement citoyen. Rebecca Kabuo, militante et a reçu le prix Femme de Courage de la main de la femme de Donald Trump en 2017 et qui a mené à la lutte aux côtés de Luc. Elle témoigne larmes aux yeux.
Il m'a appris beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à la Lucha, c'est lui qui m'a intégrée. Il m'a enseigné la non-violence. Il disait tout ce qu'il pensait du Congo. Il avait l'espoir. Je voyais ce Congo nouveau avec Luc, mais aujourd'hui, il vient de nous quitter. Je ne sais pas comment dire.
À 33 ans d'âge, Luc occupait depuis quelques mois la coordination de la nouvelle société civile au Nord Kivu. Son adjoint et porte-parole, Ishara Butaragazi, se souvient du dernier programme que Luc venait de lui communiquer la veille de sa mort.
La dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était hier, où il était en train de me rappeler qu'il faut convoquer tout le cordeau des territoires pour qu'on donne une nouvelle orientation. Et c'était lié par rapport au processus électoral qui est en cours dans notre pays. Il était en train de nous rappeler, nous devons jouer le bon rôle de la société civile, pas une société civile de suiveurs, il ne méritait pas. La moindre des choses serait de loger le bal au lieu de qu'il puisse mourir en train de se brûler, parce que là, c'est la plus forte souffrance qui soit pour le corps humain.
Luc Kulula est parmi les 5 membres fondateurs de la Lucha à Goma en 2012, plusieurs fois arrêté, mis en prison par la police. Luc est celui-même qui a parlé au nom de la Lucha lorsque le président Joseph Kabila reçoit 47 militants membres de ce mouvement citoyen pro-démocratie à Goma. Licencié en droit de l'Université de Goma, l'activiste congolais était toujours disponible pour la VOA Afrique à toutes les demandes d'interview. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, la décision surprise du président burundais Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter en 2020 a retenu l'attention et suscité de nombreux commentaires, dont des allusions directes au régime du président Idriss Déby. La nouvelle constitution adoptée par voie référendaire le mois dernier au Burundi donnait à M. Nkurunziza la possibilité de briguer 2 autres mandats de 7 ans, ce qui lui aurait permis de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmajingar, les réactions à cette décision du leader burundais.
Le revirement de cet homme d'État au pouvoir depuis 2005 alimente les débats en N'Djamena, capitale du Tchad. Nombre de Tchadiens estiment que le régime de Pierre Nkurunziza a été très répressif envers les leaders de l'opposition et de la société civile comme son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Car, disent-ils, les deux hommes d'État dirigent non seulement leurs pays respectifs avec leurs muscles, mais modifient la constitution pour devenir des monarques de l'Afrique centrale. Monsieur Nkurunziza s'est-il rendu compte de la capacité de nuisance des organisations des droits de l'homme dans le monde pour prendre une telle décision, s'interroge Dobian Assingar, représentant de la FIDH auprès de la CEMAC.
A-t-il vraiment jeté l'éponge parce qu'il s'est rendu compte de son échec politique? La pression de la communauté internationale l'a-t-il beaucoup étouffé? Est-il dégoûté par un pouvoir qui ne lui donne que des soucis? Veut-il laisser le pouvoir à un dauphin qui lui garantira une impunité parce qu'il a fait trop de mal? Je ne suis pas sûr qu'il puisse quitter le pouvoir sans avoir de garantie derrière lui.
Pour le politologue et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, Dr Evariste Ngarlem-Toldé, le président burundais veut mettre en application les chartes de la démocratie de l'Union africaine et celle de la francophonie, notamment la déclaration de Bamako.
Tout président qui modifie une constitution et que si cela touche au nombre de mandats, entre autres, il faut qu'il laisse l'application de la constitution modifiée à son successeur. Et c'est cette charte, selon cette déclaration de Bamako, qui est en train d'être mise en application par le président burundais.
Si Pierre Nkurunziza tient sa parole, sa décision donnera des leçons aux dictateurs de l'Afrique centrale qui ont aussi modifié la constitution de leur pays, notamment le cas d'Idriss Déby Itno du Tchad, estime Dobian Assingar, représentant de la FIDH auprès de la CEMAC.
Ils vont se dire, mais est-ce que nous ne sommes pas ridicules? Même Nkurunziza est parti, il est temps que nous puissions partir aussi avant que les choses nous quittent. De toutes les manières, Idriss Déby doit partir depuis longtemps. Il a mis le pays à terre. Je ne pense pas qu'il a encore une carte à jouer pour redresser ce pays.
Que les chefs d'État africains arrêtent de penser que les constitutions doivent être taillées sur mesure, déclare Dr Sitak Yumbatina Beni, juriste et enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration.
Une constitution, c'est un texte de loi. Et le droit, c'est quelque chose d'impersonnel. Que cet exemple, n'est-ce pas, de Nkurunziza sert d'exemple également chef d'État africain. Et je pense même qu'il y a une vie après la présidence. Ils peuvent être même des experts.
André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En Afrique du Sud, à un an des élections générales, le Congrès national africain au pouvoir a promis d'accélérer la réforme de la terre au profit de la majorité noire dépossédée pendant l'apartheid. Le gouvernement prévoit notamment d'exproprier sans indemnisation pour restaurer la dignité des Noirs. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Pretoria le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomas Hossein.
Dans l'année 1913, le pouvoir colonial anglais avait passé une loi par laquelle 86% des terres en Afrique du Sud furent réservées pour la propriété aux Blancs. C'est-à-dire un Noir, un Africain, ne pouvait pas acquérir la propriété des terres dans cette zone énorme, dans pratiquement la totalité de l'Afrique du Sud. Ainsi, il y a une injustice historique qu'il faut essayer de résoudre.
Comment le faire?
On a essayé de le faire à travers la restitution des terres. Quand il y a eu des familles ou des communautés africaines qui pouvaient démontrer qu'ils étaient déplacés de leur territoire traditionnel où ils avaient vécu avant 1913, ils ont acquis un droit de restitution. Le gouvernement a restitué en effet 14% des terres fertiles en Afrique du Sud, mais le programme a pas seulement coûté beaucoup d'argent parce qu'on a dû payer des compensations, mais aussi le programme a échoué. Pratiquement la totalité de ces terrains restitués ne sont plus productifs parce qu'ils ont été restitués à des gens qui ne sont pas des agriculteurs. Et les terrains aujourd'hui se trouve abandonné.
L'année prochaine, vous allez avoir des élections. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa pourra régler cette situation?
Très difficile. Il y a une résistance très forte du secteur agricole. Le secteur agricole productif, il est pratiquement à 100% blanc. Et ces gens-là, évidemment, ils ont peur. Ils ont peur d'une interférence dans leurs droits acquis. Aussi, pas possible de faire des investissements quand il n'y a pas une certaineté sur le titre de propriété.
ça va très facilement provoquer une crise dans la production agricole, même pour la sécurité alimentaire. Et pour l'ANC, c'est difficile pour Ramaphosa de trouver un compromis entre la gauche du parti et aussi le parti d'opposition d'extrême gauche, les lutteurs pour la libération économique de M. Malema. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir passer une nouvelle loi avant l'élection de 2019. Ils vont essayer de faire quelques réformes, de donner un peu plus d'appui technique et d'appui de formation aux nouveaux propriétaires des terrains qui ont déjà été restitués pour essayer d'en faire un succès. Mais d'exproprier maintenant des terres qui sont productives serait un énorme risque économique.
C'était André Thomas Hossen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'huile de noix de coco est de plus en plus sollicitée pour divers usages au Nigeria, offrant ainsi de nombreuses opportunités pour la création d'entreprises commerciales afin de satisfaire cette demande. Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria, est allé à la rencontre d'une Nigériane qui a même vendu sa bague de mariage pour démarrer une entreprise d'extraction d'huile de noix de coco à Abuja.
La demande devient de plus en plus importante pour beaucoup d'utiliser différents types d'huile pour prendre soin de leur peau, de leurs cheveux ou encore même se nourrir. Certains Nigériens se tournent ainsi vers l'huile de noix de coco qu'ils utilisent maintenant comme crème pour prendre soin de leur peau. Oyin Kansola, 30 ans, marié à Buyodun Okewoyi, qui est un saxophoniste, elle a abandonné son travail de bureau auprès du gouvernement pour créer une entreprise produisant de l'huile de noix de coco et fabriquant d'autres produits biologiques avec l'huile de coco.
Produire de l'huile de noix de coco, vous pouvez dire que c'est simple et c'est aussi à la fois un peu difficile. Mais si c'est quelque chose que vous aimez faire, vous n'allez pas sentir que c'est difficile. Donc, pour produire de l'huile de noix de coco, il faut d'abord le piler, ensuite vous rincer et vous allez conserver pour quelques jours pour que l'huile remonte à la surface et c'est tout.
Mais le chemin parcouru pour atteindre cet objectif et commencer à produire l'huile de noix de coco n'a pas été facile, car Oyin Kansola a finalement vendu sa bague de mariage en raison du manque de fonds pour acheter deux sacs de noix de coco à 20 000 naira, soit 55,68 dollars américains pour ses premiers pas. Et aujourd'hui, les choses bougent mieux chez elle.
J'étais fatiguée de demander aux gens de m'aider, donc j'ai pensé moi-même et je me suis dit, quand vous savez comment produire de l'huile de noix de coco, c'est bon, donc je vais investir moi-même. C'est une bague en or, je pourrais toujours la racheter et même être volée encore. C'est ainsi que j'ai décidé de vendre ça et d'investir dans mon projet.
À moins de 12 mois d'entrepreneuriat, elle a commencé à former des jeunes diplômés désireux d'apprendre sur la création d'entreprises pour devenir autosuffisants. Après un mois et demi de formation, Amini Adoga est à ce jour propriétaire d'une petite entreprise de production de savon noir africain.
L'une des choses principales que j'ai apprises auprès d'elle, c'était comment travailler avec le savon noir africain pour faire des shampoings, du savon pour se laver et même enlever les taches faciales. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le savon noir africain. Et ensuite, comment tu peux faire pour avoir une peau parfaite avec l'huile de noix de coco? Pas celle de fabrication étrangère, mais l'huile de noix de coco produite au Nigeria.
Beaucoup de Nigériens viennent ici pour acheter l'huile de noix de coco produite manuellement par Oyin Kansola. C'est le cas de Chidinre Chidima. Au début, elle achetait l'huile de noix de coco avec Oyin Kansola pour son corps. Mais après avoir découvert son importance, elle a aussi décidé de s'impliquer dans le business.
J'avais vraiment une tache sur mon visage et c'était la réaction à la crème précédente que j'utilisais. Mais lorsque je suis allée la voir et en utilisant l'huile de noix de coco, la tache sur mon visage a disparu. Ce n'était pas tout magique, comme souvent on nous dit pour les autres crèmes, pour des réactions en 3 jours ou 7 jours, comme ça. Mais quand j'ai commencé à utiliser correctement cette huile naturelle, la tache a disparu. C'était le premier impact que j'ai connu.
Les fabricants comme Oyin Kansola ont remplacé les autres huiles par l'huile de noix de coco dans les produits emballés et de nombreux ménages l'utilisent aussi pour cuisiner. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92. 425-4-0. Je répète, 225-5-8-9-2-4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.